Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
L'Esprit Saint nous conduit à l'unité malgré les divisions dans nos communautés. Ce sont les mots du pape lors de la prière du Regina Caeli ce dimanche place Saint-Pierre. François qui a invité les croyants à être dociles au don de l'Esprit Saint. Et à quelques jours du départ du pape pour la Terre Sainte, nous reviendrons sur les enjeux de ce voyage avec un professeur à l'Institut pour l'étude des religions et du dialogue interreligieux de Fribourg. Et puis l'invité de sœur Catherine Aubin ce dimanche, Michel Prat, conseiller du président du Conseil européen. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Près de 50 000 personnes étaient rassemblées ce dimanche place Saint-Pierre pour la prière du Regina Caeli du pape François, récitée sous un très beau soleil. En revenant sur la lecture tirée des Actes des Apôtres, le Saint-Père a souligné les conflits qui apparaissaient dans l'Église des origines et les premières tensions entre les disciples, ceux de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Le pape qui a invité chacun à être docile au don de l'Esprit Saint. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Toutes les divisions arrivent aussi aujourd'hui dans notre vie, dans nos paroisses, a souligné le pape. Mais face aux divisions, les apôtres ont pris la situation en main en convoquant une assemblée élargie à tous les disciples. Ils ont pu continuer à se dédier au service de la parole de Dieu pendant que sept hommes, connus pour leur sagesse et honnêteté, étaient choisis pour servir les pauvres. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, a aussi souligné François. Ainsi, d'un mécontentement, d'une lamentation pour favoritisme, est sortie une solution, a-t-il poursuivi. C'est en discutant, en se confrontant, en priant que se résolvent les conflits dans l'Église, avec la certitude que les bavardages, les envies, les jalousies ne mènent jamais à la concorde, à l'harmonie et à la paix. Ceci nous aide à comprendre, a souligné le pape, que quand nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, il nous conduit à l'unité en respectant les talents de chacun. Pour le pape, l'Esprit, sans enlever à l'assistance, aux pauvres sa dimension concrète, la place au-delà des préoccupations matérielles, des intérêts privés, des discriminations. François a ainsi demandé que la Vierge Marie nous aide à être docile à l'Esprit Saint pour que nous sachions nous estimer les uns les autres et converger toujours plus profondément dans la foi et la charité, en ayant le cœur ouvert aux besoins de nos frères.
Et à l'issue du Regina Caeli, le pape a fait part de sa prière pour les populations des Balkans frappées par de graves inondations, en particulier en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. François qui a dit toute sa proximité spirituelle envers les victimes et leurs familles. Les graves inondations dans la région ont fait des dizaines de morts. Parmi d'autres ONG, la Caritas locale est très active pour secourir les sinistrés. Le pape inaugurera ce lundi en fin d'après-midi l'assemblée plénière de la conférence des évêques italiens. Elle se tiendra dans la salle du synode du Saint-Siège. Le Saint-Père prononcera à cette occasion un discours pour ouvrir leurs travaux, des travaux qui se poursuivront jusqu'à jeudi. La conférence italienne est la seule au monde à avoir nommé son président par le pape évêque de Rome. Nous reviendrons sur ces travaux dans nos prochaines éditions. L'église copte orthodoxe d'Alexandrie demande à ses prêtres de ne pas soutenir directement de candidats lors de la prochaine élection présidentielle, une élection qui doit se tenir les 25 et 26 mai en Égypte. Concrètement, les prêtres ne doivent pas donner de consigne de vote aux fidèles, ne pas recevoir de candidats dans les églises et les paroisses. Ces directives rejoignent la position du patriarche copte orthodoxe, Tawadros II, qui avait récemment exclu tout ralliement officiel de l'église copte à l'un ou l'autre des deux candidats aux élections. Dans un entretien publié récemment par un hebdomadaire catholique égyptien, le patriarche copte demandait à tout citoyen, chrétien ou musulman, de lire le programme électoral de chaque candidat et de choisir celui qu'il veut comme président. L'ancien chef de l'état-major Abdel Fattah al-Sissi est largement favori face au candidat de gauche Hamdine Sabahi. À quelques jours du départ du pape pour la Terre Sainte, nous poursuivons notre éclairage des enjeux de ce voyage. Ce dimanche, je vous propose d'écouter Mariano Delgado. Il est professeur à l'Institut pour l'étude des religions et le dialogue interreligieux de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Mariano Delgado revient sur les objectifs de cette visite dans un contexte régional particulier, mais aussi sur le message qu'est venu porter le Saint-Père.
Le pape va se rendre à Jérusalem, bien sûr, avec les messages de la papauté, aussi les messages franciscains, ça c'est le message de la paix. Vous savez que la papauté, justement, dans les dernières décennies, a joué un rôle très important dans le monde, comme institution médiatrice dans les conflits. Et si vous vous souvenez, lors de la première et même de la deuxième guerre du Golfe, tout le monde de la grande politique essayait d'un côté et de l'autre de contacter le pape Jean-Paul II pour attendre son avis et pour voir si le pape peut arrêter la guerre. Et le pape a dit à l'époque que la guerre est toujours une grande défaite de l'humanité. Et c'est la même chose qu'a répété le pape François dans différents messages. Le pape se rendra à Jérusalem comme un pèlerin de la paix, mais aussi un pèlerin aussi de l'orientation spirituelle de l'homme. Vous savez que la Gaudium et Spes, le numéro 22, le grand numéro du Concile, nous dit qu'il n'y a qu'une vocation de l'homme, et la vocation de l'homme, c'est de sortir à la rencontre de Dieu, qui a pris déjà l'initiative pour venir à notre rencontre. Et ça, c'est le message du pape François aussi dans l'Évangile Gaudium. Il faut se rendre compte que Dieu a pris l'initiative pour venir nous chercher et qu'il attend de nous que nous mettions aussi en route vers Dieu. Et ça, c'est la paix et le message spirituel. Jérusalem comme le lieu de rencontre de trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Jérusalem comme le lieu de la passion de Christ. Ça, c'est un aspect très important de son pèlerinage.
Quel est l'état des relations entre le christianisme et le judaïsme et l'islam, notamment en Terre Sainte?
C'est une relation bonne de collaboration pour la paix. Il y a des rencontres à différents niveaux qu'il faut poursuivre. Mais c'est aussi, ce sont des relations aussi un peu conflictives parce que il y a des chrétiens arabes, des chrétiens non arabes, il y a des problèmes politiques. Alors il faut parfois prendre des positions. C'est une situation alors délicate, mais c'est une situation aussi de dialogue interreligieux.
Quelles sont les attentes des chrétiens et des croyants des autres religions envers le pape François?
On attend parfois beaucoup de ce que le pape peut faire. Mais si nous nous souvenons, nous nous rappelons des voyages des autres papes, de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, on peut voir que les gestes des papes, quand ils se rencontrent avec différents leaders religieux, etc., quand ils visitent les lieux sacrés aussi d'autres religions, ce sont des gestes qui donnent à penser. Et ici, il y a quelqu'un, le pape, qui est, à vrai dire, une autorité spirituelle pour les catholiques d'abord et pour tous les chrétiens qui sont prêts à lui reconnaître l'autorité. Mais qu'au-delà de ça, il est perçu dans le monde comme une autorité spirituelle qui peut rassembler aussi les croyants des autres religions pour certaines choses. Pour la paix, pour le renouveau spirituel, pour les dialogues interreligieux et tout ça. Ce n'est pas par hasard que les rencontres de la paix, de prières pour la paix à Assise, ont eu lieu en partant de l'initiative de l'invitation du pape.
C'était Mariano Delgado de l'Université de Fribourg, interrogé par Gabriele Palacciano. Ce lundi, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux fêtera ses 50 ans d'existence. Ce dicastère fut institué par le pape Paul VI le 19 mai 1964 par la lettre apostolique Progrediente Concilio. À l'époque, il s'agissait du secrétariat pour les non-chrétiens. En un demi-siècle, le Conseil pontifical a parcouru un très long chemin en cherchant à développer la rencontre avec les personnes d'autres religions. Dans un communiqué publié à l'occasion de cet anniversaire, le dicastère souligne qu'à travers le dialogue avec le monde de Paul VI, le dialogue de la paix de Jean-Paul II, le dialogue de la charité dans la vérité de Benoît XVI, son œuvre se poursuit aujourd'hui à travers le dialogue de l'amitié porté par le pape François. Sachez qu'une conférence sera organisée ce lundi après-midi à Rome sur le thème « 50 ans au service du dialogue interreligieux », conférence inaugurée par le cardinal Jean-Louis Torrent, le président du dicastère. Dans une semaine, des millions de citoyens européens se rendront aux urnes pour élire leur Parlement. L'invité de ce dimanche, Michel Pratt, est conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Michel Prat a commencé à travailler pour l'Europe il y a presque 30 ans en tant que conseiller du vice-premier ministre belge Willy de Klerk, puis il a été conseiller de son successeur Guy Verhofstadt et a rejoint l'administration de la politique scientifique en Belgique en 1986. Sœur Catherine Aubin l'a interrogé sur son parcours et sur ses convictions européennes. En effet, Michel Prat, dit-il, a toujours cherché à développer et faire avancer le projet européen et souhaite que nous considérions tous un jour l'Union européenne comme notre maison commune.
Michel Prat, est-ce que vous vous êtes senti appelé par l'Europe ou bien est-ce que c'est l'Europe qui vous a appelé ?
Je crois qu'il y a des deux. Je crois qu'il y a à la fois un appel de l'Europe, d'une idée qui se base sur des valeurs, sur une révolution, en ce sens que nous nous sommes fait la guerre en Europe durant des siècles et que depuis les années 1950, depuis l'appel de Robert Schuman, il y a eu un changement radical. Il y a eu en fait une volonté de se déclarer la paix, comme disait Aristide Briand. Et je crois que ça, c'est une idée novatrice, c'est une idée assez révolutionnaire en Europe et basée sur des valeurs de justice, de responsabilité, de solidarité, de liberté. Et donc, oui, quelque part, j'ai été appelé par cette Europe-là.
À quelle période ça s'est trouvé, cet appel ?
Je crois que c'est venu, je dirais pas par hasard, parce que je ne crois pas au hasard, je crois au destin. Et je crois que c'est immodestement un destin. Je suis économiste, j'ai une carrière dans des institutions européennes.
Et vous n'êtes pas né en Europe ?
Et je ne suis pas né en Europe, je suis né à Elisabethville, qui est Lubumbashi aujourd'hui et qui était le Congo belge à ce moment-là. Et c'est vrai que voir l'Europe de plus loin, voir l'Europe d'Afrique, mes 8 premières années ont été en Afrique, 2 années à Lubumbashi et 6 années à Kinshasa, voir l'Europe d'Afrique, voir la Belgique de l'Afrique, permet déjà de relativiser. Je crois que beaucoup d'Européens aujourd'hui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont parce qu'ils vivent un phénomène et un projet qui pour eux ne pose pas question, qui est un phénomène normal, qui est un phénomène allant de soi. Alors que quand on le voit de l'extérieur, quand on le voit d'Afrique, mais je suppose aussi de Chine ou d'Amérique, on se rend compte vraiment de ce que j'appelais tout à l'heure la révolution des années 1950, se déclarer la paix, se déclarer dans des valeurs et pour des valeurs, et je crois que c'est ça, c'est extrêmement important.
Vous soulignez, Michel Prat, quelque chose dont on n'a pas assez conscience, c'est que c'est nouveau finalement, cette Europe. Elle est novatrice dans cette solidarité, elle est novatrice dans ses valeurs.
Elle est novatrice en ce sens qu'elle apporte un changement dans la manière de penser. On peut être égoïste, on peut se regarder le nombril, on peut être campaniliste, comme on dirait en Italie. Et ça, c'est le repli sur soi. Et puis, il y a l'autre idée. Il y a l'idée qui est le contraire de celle-là, qui est l'idée d'aller vers l'autre, de jeter un pont vers l'autre et de dire à l'autre, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur le fait que l'on doit construire ensemble une société. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et l'Europe, je crois, c'est ça.
Une question aussi importante, c'est la question des valeurs chrétiennes de l'Europe. Il y avait ce drapeau hautement symbolique. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Le symbole a été supprimé, ça ne veut pas dire que le drapeau a été supprimé. Mais moi, je suis toujours en demande de symbolique. Je crois qu'un drapeau, un hymne qui soit reconnu, des billets de banque sur lesquels figurent non pas des designs de choses et d'autres qui n'ont pas de nom, mais où figurait « Je suis un amoureux de Venise », la place Saint-Marc ou l'église de la Salute à Venise. Je crois qu'une symbolique permet à des personnes de se raccrocher à quelque chose et de comprendre mieux quelque chose. Une symbolique permet de s'approprier une idée. Et je crois que ce qui manque à l'Europe, c'est justement une symbolique pour que les gens puissent mieux s'approprier l'idée européenne.
Qu'en est-il aujourd'hui pour nous, Européens, de l'Europe ? Quels sont ses manquements, mais aussi quelles sont ses réussites ?
Je vais commencer par les manquements. Je crois que nous devons indiquer un projet. Nous avons un projet qui est un projet basé sur des valeurs, mais on ne sait pas avec qui on le fait, on ne sait pas comment on le fait. Autrement dit, la Turquie sera-t-elle demain en Europe ou hors d'Europe ? L'Ukraine sera-t-elle demain en Europe ou hors d'Europe ? Ce sont des questions auxquelles on ne répond pas. Et je crois que quand on ne répond pas à ces questions, ça influe sur le comportement des Européens qui ont quelque part peur d'un projet qu'ils ne connaissent pas. Ils savent que c'est un bon projet, ça ils le savent, puisqu'il est basé sur des valeurs, mais ils ne connaissent pas la finalité du projet. Ils ne savent pas avec qui et ils ne savent pas comment. Que fera l'Europe ? Que fera la Commission ? Que fera la Nation ? que fera la région. Et je crois que les gens, hélas, préfèrent toujours, ou parfois, un mauvais projet qu'ils connaissent à un bon projet qu'ils ne connaissent pas. Donc je crois que nous devons être plus clairs quant à avec qui nous menons ce projet et jusqu'où nous menons ce projet.
Quels sont réellement les remèdes à ces manquements ?
Les remèdes, c'est, je crois, d'être plus lisible. J'appartiens au cabinet du président Van Rompuy. J'étais toujours un peu chagriné qu'on appelle des nouveaux traités, des two-pack ou des six-pack ou des euro-plus-pact. Je crois que la lisibilité est importante. Je crois que les gens et les personnes devraient être amenés à comprendre plus rapidement ce pourquoi nous luttons. Lisibilité symbolique, disais-je aussi, et alors aussi un appel européen. Je viens du secteur spatial. Quelque chose qui m'a toujours ému, c'est quand Kennedy a dit « Je veux un homme sur la Lune d'ici 10 ans et retour ». Cela a mis en action l'industrie américaine, les scientifiques américains, toute la société américaine qui s'est dit « Ah oui, nous, on va travailler pour cet objectif ». Un des objectifs pourrait être aussi en Europe, par exemple, pourquoi ne pas mieux connaître le cerveau, vu que nous avons des maladies du type d'Alzheimer qui se développent hélas rapidement. Mon papa est décédé d'une maladie d'Alzheimer. Nous avons un tas de problèmes qui sont liés au vieillissement. On pourrait très bien dire, eh bien, les Européens seront les premiers à établir une cartographie du cerveau et avec d'autres, je ne dis pas qu'on doit le faire tout seul, avec les Américains, avec les Chinois et autres, mais de prendre le leadership de cette grande idée. Ça serait une grande idée mobilisatrice, c'est ce qui nous manque, la mobilisation pour l'Europe.
Est-ce qu'un jour on pourra dire, vous ou moi-même, je suis française et européenne ? Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir cette identité qui n'est pas une double identité, qui est une identité plurielle ?
Absolument. Je crois très fort à la valeur ajoutée de l'identité européenne, mais à sa valeur ajoutée et pas au fait qu'elle remplace des identités. Je crois qu'on peut continuer à dire ce que moi je suis par exemple, c'est-à-dire bruxellois, à la fois flamand et francophone, né, je l'ai dit, à Elisabethville, amoureux de Venise, j'ai plusieurs identités et je suis européen. Et je crois que si nous terminions tous par « je suis britannique » ou « je suis anglais », »,« j'habite Londres », »,« j'habite tel quartier de Londres », »,« je suis passionné », je ne sais pas moi, par le Portugal parce que j'ai une épouse portugaise, « et je suis européen », le « et je suis européen » permettrait de souder, non pas la nation européenne, parce qu'on n'est pas à l'idée de nation, mais souder le projet européen.
Qu'est-ce qui nous empêche encore de le dire ?
Je crois qu'on a quelque part à la fois, je ne dirais pas un peu honte, mais un peu peur de s'affirmer européen parce que bon, on considère que l'Europe s'occupe de l'économique et de la finance et pas du reste. Ça n'est d'ailleurs pas entièrement faux. Je crois qu'il faut aussi que l'Europe s'occupe de plus en plus de la culture et de l'éducation. Je vois ça avec mon fils qui a fait 6 mois Erasmus à Valence et qui en est ressorti presque espagnol. Je veux dire par là, aller à la rencontre des personnes, discuter avec les personnes, s'imbiber de leur culture, avoir plusieurs cultures permet de se déclarer plus fortement européen.
Est-ce que la vision de Maurice Schumann et la personnalité de Maurice Schumann est encore au cœur du Conseil européen ?
Je crois qu'elle inspire toujours ceux qui construisent l'Europe. Non seulement Robert Schumann, mais également Jean Monnet, également Paul-Henri Spaak, également Winston Churchill, Charles de Gaulle. Je crois que ce sont des grands d'Europe qui ont façonné l'Europe et l'idée européenne.
Alors au niveau, j'insiste un petit peu, je me permets d'insister sur ces grandes valeurs. Il y a en Europe quand même des grandes valeurs chrétiennes. Comment faire pour reconnaître ces valeurs chrétiennes qui ont fondé l'Europe ?
Je crois qu'elles sont aujourd'hui reconnues. Quand je parlais de justice, de liberté, de paix, et donc quelque part la paix, c'est le pardon et la réconciliation qui est une valeur théologale introduite en politique. Je crois que l'idée européenne basée sur l'ensemble des valeurs, progresse. Alors c'est toujours extrêmement compliqué, parce que, comme je dis, il est plus facile d'être égoïste que d'être altruiste. Il est plus facile de dire « moi, tout se passe bien sur mon lopin de terre, vous autres, où ça se passe moins bien, tant pis pour vous ». Mais je crois que construire des ponts, et quand je disais que j'aimais beaucoup Venise, c'est aussi la ville des ponts, Venise, qui connaît 440 ponts. Eh bien, construire des ponts, aller d'une rive à l'autre, permet de construire quelque chose de plus grand, de plus beau, et de plus fort.
Merci.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.